Europe 1.
Heures, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon week-end. Y a-t-il un problème aujourd'hui en France avec la liberté d'expression? On en parle dans un instant avec la philosophe Monique Kantos-Perber. Je recevrai ensuite Sophie Sacknin pour son livre « Merci Elisabeth Badinter » dans lequel elle revient sur le parcours intellectuel d'Elisabeth Badinter et l'influence qu'elle a pu exercer depuis un demi-siècle. Et l'on terminera l'émission avec Gérard Manset qui sort un nouvel album « L'algue bleue ». 1, 2, 3, c'est parti. Monique Kantos-Perber, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et vous êtes l'auteur de « Sauver la liberté d'expression » paru chez Albin Michel en 2021. Et c'est vrai que la liberté d'expression est de plus en plus un problème. Il n'y a qu'à voir l'actualité récente. Un livre comme Transmania déplaît à des associations et à des élus. Et hop, sa campagne promotionnelle est annulée. Des conférences de Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Zemmour sont interdites. L'une à Lille, l'autre à Bruxelles. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, est convoqué par la police, tout comme Guillaume Meurice, l'humoriste de France Inter. La chaîne CNews est menacée d'interdiction. Ses dirigeants et ses animateurs sont convoqués devant une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Et je ne parle pas des signataires d'une tribune en soutien à Gérard Depardieu qui sont traités d'agresseurs ou de violeurs, ou la dessinatrice de Libération qui croule sous les menaces et les injures, notamment d'élus LFI, ou l'écrivain Sylvain Tesson qui voit une tribune de 1200 signataires lui dénier le droit de parrainer le printemps des poètes. J'ai l'impression qu'on ne se contente plus de combattre les opinions qu'on n'aime pas, on veut les interdire.
Oui, en effet, mais vous savez, c'est une tendance fort ancienne. La force du conformisme au sein de la société est très puissante. Et jusqu'il y a peu de temps, à vrai dire, et depuis le milieu du XIXe siècle, on avait tendance à considérer que les lois et la puissance publique avait plutôt pour vertu de protéger la liberté d'expression contre les pressions de la société. Dans plusieurs des cas que vous avez cités, il n'y a pas eu de poursuite de pénale. Il y a eu de l'intimidation sociale, de la pression. Ça a été le cas, par exemple, avec peut-être pas Transmania, encore que la mairie de Paris, c'est un petit, elle a pris une interdiction, mais qui était absolument pas fondée pénalement. En tout cas, si le groupe de presse qui publie cet ouvrage, le groupe d'édition qui publie cet ouvrage, avait décidé de publier ailleurs ou avait décidé de protester contre cette interdiction de la mairie de Paris, je ne sais pas comment se serait prononcé le tribunal administratif. Je ne crois pas qu'il aurait donné raison à la mairie de Paris qui aurait été peut-être condamnée comme abus de pouvoir.
Oui, là il s'agit des affiches promotionnelles pour ce livre Transmania qui ont été illico retirées.
Tout à fait, illico retirées, oui, mais le juge administratif aurait regardé le contenu de l'ouvrage et s'il avait vu, comme beaucoup d'articles le disent, aucune expression discriminatoire, aucun appel à la haine, il aurait considéré que la mairie de Paris avait abusé de son pouvoir. Maintenant, tout dépend des règles intérieures. Et c'est sur ce point que je voudrais revenir. Vous savez, on amalgame tous ces cas. Or, ces cas ne sont pas susceptibles d'amalgame. D'abord parce que dans certains cas, il y a une réponse pénale avec ce que ça peut entraîner comme conséquence pour la personne qui éventuellement serait condamnée. Et par ailleurs, des pressions sociales, des intimidations que malheureusement la loi est encore aujourd'hui impuissante à enrayer, mais qui ont, dans notre société, surtout en raison des réseaux sociaux et de la capacité incroyable à créer une meute, et une meute quasi assoiffée de sang, contre tel ou tel auteur ou telle personne ayant proféré des propos qui ne plaisent pas à ceux qui activent ces meutes, eh bien ça aboutit en général à une intimidation telle que la personne se censure. Soit la personne se censure, soit ses sponsors décident de se retirer, soit la maison d'édition qui le publie décide de supprimer toute publicité et peut-être même de ne plus diffuser le livre. Bref, là, on a affaire à un pur rapport de force et malheureusement, ceux qui sont des nouveaux censeurs, des justiciers de la parole, sont dans une position extrêmement favorable. Et dès que ça touche évidemment à des questions liées aux problèmes liées aux identités ethniques, qui ne sont pas nécessairement un problème, liées aux identités ethniques, liées au sexe, ça peut prendre une ampleur considérable. Alors, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que dans notre pays, la liberté d'expression est une valeur fondamentale, elle est le socle de ce qu'est le libéralisme de la France, mais elle est d'autant plus solide qu'elle est limitée. La loi de 1880, la première grande loi qui a été intitulée loi sur la presse, établit la protection de la loi pour la liberté d'expression. C'est ça le sens de cette loi. Mais la loi protège d'autant mieux la liberté d'expression qu'elle impose des limites à cette liberté. Et ces limites sont, depuis ce temps-là, c'est resté jusqu'à présent, les diffamations, injures, provocations à la haine. Pourquoi ? Parce qu'on considère que certains usages de l'expression peuvent être des atteintes majeures aux personnes. Or, un État libéral protège la liberté, mais pas seulement la liberté de celui qui s'exprime, la liberté aussi de celui qui est visé. Et cette loi est une loi de liberté au sens où elle considère tous les points de vue sur la liberté. J'ai le droit de dire ce que je veux, mais celui auquel je m'adresse a aussi le droit de protester s'il estime que j'ai dépassé certaines limites. C'est là quelque chose d'absolument fondamental. Il y a des libertés dans notre pays qui sont absolues. La liberté de conscience est quelque chose d'absolu. La liberté de ne pas être surveillé à tout instant est quelque chose d'absolu. D'ailleurs, ceux qui s'émeuvent de la disparition de la liberté d'expression ne s'émeuvent pas des systèmes de surveillance et de traçage des individus qui sont en train de se mettre en place. Pourtant, là, on a affaire à des libertés absolues. Mais il y a des libertés limitées, et elles sont d'autant plus des libertés qu'elles sont limitées. C'est vraiment le cas de la liberté d'expression et de toutes les libertés qui ont un effet sur autrui. Parce que quand on adresse des injures ou un appel à un meurtre visant autrui, on a un effet sur autrui, bien évidemment, ou qui ont trait à, alors, ce qu'on appelle l'ordre public, mais évidemment, c'est plus du tout le sens que ça avait au XIXe siècle. Je dirais plutôt à l'ensemble normatif qui fait tenir l'ordre constitutionnel de nos sociétés, le principe de non-discrimination, le principe d'égalité, en tout cas des êtres en tant que personnes, et de voir leurs droits défendus de la même façon. Donc ça, les propos qui atteignent ces deux choses-là, la loi les considère comme problématiques. Maintenant, si vous voulez, c'est pas parce que c'est problématique qu'il faut que ça se retrouve au tribunal.
Mais Monique Kantos-Perber, moi je me demande pourquoi la liberté d'expression est plus un problème, on a l'impression, aujourd'hui qu'hier. Et je me dis que le problème, c'est peut-être que quand on n'est pas d'accord avec les revendications des uns et des autres, c'est assimilé aujourd'hui à de la haine. Et l'appel à la haine étant, comme vous venez de le rappeler, interdit par la loi. Mais ça n'est pas parce qu'on est contre la participation des personnes trans aux compétitions féminines ou contre l'augmentation du SMIC qu'on hait les trans ou les smicards.
En effet, justement, quand je parle de tort fait aux personnes, toute la subtilité de la justice, la subtilité des lois de 81, la considérable jurisprudence qui sont attachées, c'est précisément lorsque le juge examine une expression considérée comme éventuellement délictueuse, le juge examine le contexte, examine l'intention, examine tout un ensemble de choses qui permettent d'apprécier exactement ce qu'il en est. Et dans le cas que vous venez de dire, il est clair que, il est probable, je ne vais pas me mettre à la place d'un juge instruisant une telle affaire, que si le juge avait considéré le contenu du livre ou prenant la question de propos qui sont opposés à la participation des athlètes transgenres à des compétition internationale, le juge aurait considéré qu'en effet, ce n'est pas une provocation à la haine, ce n'est pas un tort majeur fait à autrui. Mais aujourd'hui, malheureusement, notre culture a tendance à de moins en moins faire la différence à ce qu'on appelle dans toute la tradition de réflexion sur la liberté d'expression, la différence entre un tort objectif, un dommage, un appel au meurtre, une injure qui ruine complètement la réputation de quelqu'un, une diffamation majeur de ce qu'on appelle une offense, c'est-à-dire quelque chose, un propos qui va contre votre conviction, qui va contre ce que vous estimez être bien, qui vous paraît délirant, qui vous perturbe. C'est ce que le philosophe Jeremy Waldron appelait la différence entre la gêne, le mal moral, où on est atteint d'une certaine manière dans ce qu'on est, dans son identité, et le mal intellectuel, où on n'aime pas l'idée. Mais bon, la liberté d'expression, c'est cela. C'est la différence acquise entre ce qui sont des offenses des choses qu'on n'aime pas, des provocations, des choses totalement déplacées, qu'on doit tolérer, parce que ça fait partie de tout ce travail de l'acceptation de l'autre et d'acceptation de la nécessaire diversité des opinions. Les sociétés, elles sont intéressantes parce que tout le monde n'est pas du même avis. Et parmi cette diversité d'avis, eh bien, il y a des avis qui, sans être contraires à la loi, ou des opinions qui, sans être contraires à la loi, sont difficiles à accepter. Celles-là ne devraient pas être concernées, enfin ne sont, en tout cas quand on prend le texte du corpus de loi 1881, ne doivent pas être concernées. C'est tout à fait différent des dommages qui sont une mise en cause directe de la personne.
On fait une pause, Monique Cantos-Perber, on y revient tout de suite après.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
La liberté d'expression est-elle devenue un problème dans notre société? On y revient avec la philosophe Monique Cantos-Perber qui a publié il y a deux ans et demi « Sauver la liberté d'expression ». Est-ce qu'il faut vraiment la sauver, la liberté d'expression, Monique Cantos-Perber? Avec Internet, on est tous devenus émetteurs. Le débat public s'est élargi à tous ceux qui jusque-là n'avaient pas la parole. Il n'est plus confisqué par les grands médias qui triaient soigneusement ceux qui pouvaient y participer ou non, mais on a l'impression qu'à partir de là, ça met tout le monde mal à l'aise.
Alors, il faut absolument la sauver de deux dangers majeurs, si je peux reprendre votre expression. C'est d'abord son adultération, parce que se servir de la liberté parler pour réduire les autres au silence en utilisant par exemple des injures raciales ou des provocations à la haine qui font de ces individus en quelque sorte des exclus sociaux. Cet usage-là de la liberté d'expression, hein, qui est liberticide de la parole des autres, si on peut dire, est un usage qui se répand de plus en plus. On le voit avec cette prolifération de discours à la limite du racisme, qui joue sur des références, des allusions et qui sont destinées peu à peu à disqualifier des groupes sociaux. Donc c'est une véritable adultération de la liberté d'expression qui la prive précisément de sa force interne qui est de pouvoir alors j'ose pas dire organiser, par une liberté n'organise rien, mais de pouvoir permettre une très grande diversité d'opinions parmi lesquelles il y a des opinions choquantes, des opinions provocantes. Mais quand il y a des opinions qui sont destinées à détruire l'autre, ça c'est très ennuyeux. Mais il faut maintenant la sauver d'autre chose, qui est la sauver de la réduction au silence. Parce que malheureusement, la force d'intimidation des réseaux sociaux et des moyens de réprobation sociale, c'est-à-dire, même sans utiliser les réseaux sociaux, de condamnation sociale de certains propos qui ne sont pas contraires à la loi, ont atteint une capacité de nuisance colossale. Et ça, c'est un problème qui est vraiment propre à nos sociétés. Aujourd'hui, en quelques heures, on a la capacité de faire taire à peu près n'importe qui. Ceux qui résistent, parce qu'il y en a qui ont résisté. Je pourrais vous citer des exemples. Il y a quelques années, un spectacle était proposé à la cartoucherie de Vincennes qui s'appelait Canada, où le réalisateur avait... Bon, c'était son choix de réalisation comme un autre. Ça parlait de communautés autochtones. Et il avait... aucun des acteurs qu'il avait choisi pour jouer cette pièce n'était autochtone. Il y a eu une campagne demandant l'annulation de toutes les façons possible. Le réalisateur s'est avancé sur la scène, a expliqué les raisons pour lesquelles il avait fait ce choix artistique, hein, c'est quand même sa liberté artistique, et Ariane Mouchkin avait totalement soutenu ce réalisateur et envers et contre tout, il a pu produire et présenter son spectacle. Donc il y en a qui résistent. Je vous cite un cas qui est assez ancien, je ne sais pas maintenant si ce sera encore possible, mais il est vrai que cette force d'intimidation, cette capacité à obliger une personne à se taire est quelque chose d'effrayant. Alors là, je parle de personnes qui s'expriment dans l'espace public où la parole est très libre. Il y a des lieux où la parole est moins libre, tout simplement parce que ce sont des lieux particuliers. Un lieu, par exemple, une société commerciale ou des lieux privés, ou un journal même, a la possibilité de refuser de publier un texte. La personne qui sera l'objet de ce refus n'attaque pas le journal pour atteinte à la liberté d'expression. Pourquoi ? Ben parce que le directeur du journal est responsable du style de son journal. Il est responsable des articles, d'ailleurs il en est pénalement responsable, des articles qu'il s'y publie. Donc, bien sûr, il y a un droit à l'expression de quiconque, mais pas où, mais pas partout. Et pas partout de la même façon. Prenons le cas des universités maintenant, et ça c'est un cas où j'ai été directement confrontée, puisque j'ai dirigé une institution d'enseignement supérieur. Là aussi, le but de l'université, c'est quand même plutôt d'organiser des confrontations d'idées. Donc des sujets très controversés, même les plus controversés, peuvent être abordés. Mais maintenant, c'est aux responsables de l'université, qui est quand même lui aussi dans un établissement autonome, responsable de la politique, enfin, et de son conseil d'administration et de toute cette direction collégiale, de décider si l'expression de certaines idées sont de l'ordre de la propagande ou de l'ordre du débat. Par exemple, moi-même, j'avais eu affaire à un cas un peu difficile, si je peux en parler franchement ici. Il a d'ailleurs été, il a fait l'objet d'un jugement au Conseil d'État, d'une décision au Conseil d'État. Une grande conférence était prévue pour lancer le boycott de l'État israélien. Ça remonte déjà, on tourne encore beaucoup autour de cette affaire. Ça remonte à une quinzaine d'années. Si vous voulez, c'est le boycott d'un État reconnu par l'ONU d'abord et interdit par la loi. Donc je me voyais mal en tant que responsable d'une institution publique l'autoriser en connaissance de cause. Et d'autre part, ça ne m'aurait pas du tout gêné que quelqu'un, un universitaire, défende de manière approfondie avec des arguments le bien fondé du boycott de l'État israélien. Mais je souhaitais que cela puisse se faire dans le cadre d'un débat avec des contradicteurs, puisque c'est la vocation d'une université. En revanche, je voyais mal en quoi l'établissement que je dirigeais avait vocation à accueillir une conférence de propagande, qui n'est rien d'autre que ça, appelant au boycott de l'État israélien, de plus au boycott des chercheurs et des universitaires israéliens, nos collègues avec lesquels nous étions en relation de recherche. Donc je me suis opposée à cela. Bon, il y a eu un certain nombre de péripéties et a suivi un appel à l'apartheid de l'État israélien. Bref, le Conseil d'État, dans une décision d'ailleurs qui en France protège les universités, je suppose que quand le président de l'université de Lille a... Enfin, je ne connais pas non plus le thème, donc je voudrais pas m'avancer sur ce qui concerne les autres, puisque je connais pas suffisamment le dossier. Mais l'idée était très claire. L'établissement d'enseignement supérieur est un établissement de débat et de recherche collective de la vérité. Alors tout peut se dire. Tout peut se dire. Et là, d'une certaine manière, ça va encore plus loin que ce que permet la loi. Mais à condition qu'il y ait des arguments et que ceux qui disent acceptent la réfutation. Parce que la règle du milieu intellectuel de formation qu'est une université, c'est cela. L'université n'est pas un lieu où chacun va donner son avis, de faire de la propagande en essayant d'enrôler les autres, chacun dans sa tribu. Une université, c'est un lieu de débat obligé, où les positions les plus extrêmes peuvent être confrontées à condition d'accepter la réfutation et d'être elles-mêmes argumentées.
Merci Monique Cantos-Perber. Je rappelle le titre de votre livre, il est paru en 2021 chez Albin Michel. C'était « Sauver la liberté d'expression ».
Merci.
Et l'on a maintenant rendez-vous avec Sophie Sacnin qui publie « Merci Elisabeth Badinter ».
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Sophie Sacnin, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître aux éditions de l'Observatoire « Merci Elisabeth Badinter », un livre dans lequel vous revenez sur son parcours intellectuel, sur l'influence qu'elle a pu exercer depuis son premier essai en 1980. Vous l'avez rencontrée pour lui parler de votre projet. Comment a-t-elle réagi ?
D'abord, nous avons une longue conversation, parce que c'est difficile de rencontrer Elisabeth Badinter et de ne pas avoir de conversation. Elle a réagi de manière, on va dire, étonnée, parce que ça a beau être un personnage public, ce n'est pas nécessairement une personne qui aime qu'on parle d'elle et qui imagine qu'on parle d'elle ou de sa vie. Or, mon propos n'était pas clairement d'entrer dans sa vie intime, hein, ni de dévoiler ou d'enquêter sur des parties cachées qu'on n'aurait pas révélées de sa vie, mais plutôt de rendre hommage à ce parcours exceptionnel d'une femme qui influence son époque, qui a influencé des générations, plusieurs générations déjà de femmes, et aussi d'hommes, parce que ça n'est pas qu'une féministe, c'est aussi une universaliste qui inclut l'ensemble des personnes auxquelles elle s'adresse. Donc voilà, c'est cet hommage que moi je souhaite lui rendre à travers ce livre et qu'on est beaucoup à avoir envie de lui faire, sachant qu'aujourd'hui, finalement, dire merci à quelqu'un, c'est quelque chose d'assez rare. Et plutôt que de faire un livre polémique, j'ai souhaité regrouper autour de moi des personnes qui l'ont rencontré de près, de loin, pas nécessairement des intimes, mais en tout cas de voir comment elle a marqué les esprits à la fois à travers ce qu'elle dit dans ses livres, mais ce qu'elle dit, sa parole, quand elle est à la télé ou à la radio, et la façon dont elle, finalement, elle a rencontré les gens à de multiples endroits. En fait, on a tous une histoire avec Elisabeth Badinter, d'une certaine manière. On a en tête un passage à la télévision, un moment qui nous a émus, une phrase qui nous a marqués, une question qui nous a poussé dans nos retranchements, qui nous a amené à nous questionner. Et donc, c'est ça que j'ai eu envie de retracer à travers mon livre. Et pour tout vous dire, ça a été un grand bonheur de faire ça.
Son mari, Robert Badinter, en tant qu'avocat, militant pour l'abolition de la peine de mort, puis en tant que ministre de la Justice d'un gouvernement socialiste, a été une grande figure de la gauche. Mais elle, est-ce qu'elle est de gauche ou de droite, à votre avis ?
Pour moi, elle est d'aucune chapelle. C'est ce qui fait sa force. Elle a l'habitude, enfin, elle a eu, à certains moments, elle a dit qu'elle était d'un rose légèrement teinté. Elle était légèrement teintée de rose, pardon. Mais je crois que même si son cœur est historiquement à gauche, finalement, par son œuvre, elle s'est détachée du politique, même si elle est en permanence dans le champ du politique, mais sans aller sur ce terrain-là et uniquement sur ce terrain.
En quoi est-elle une féministe, peut-être singulière d'ailleurs, par rapport à ce que sont la plupart des féministes aujourd'hui ? Elle a beaucoup écrit sur les relations hommes-femmes, mais pour elle, les hommes et les femmes se ressemblent beaucoup.
Oui, parce que ce sont des humains, et avant tout, ce sont des humains, Alors, elle est singulière parce que, justement, elle construit un féminisme qui n'est pas excluant. Ça n'est pas un féminisme qui se fait sur le dos des hommes. C'est un féminisme qui se fait avec les hommes parce que, bien évidemment, quand on doit faire avancer des causes, l'histoire montre que les hommes ont très souvent été au pouvoir et que si certains hommes n'avaient pas bougé, les femmes n'auraient pas réussi à conquérir un certain nombre de leurs droits. Donc, elle est sur ce terrain-là et elle persiste sur ce terrain avec un exercice, on va dire, de son intelligence qui est magnifique parce que elle observe le monde et elle observe les gens, elle aime raconter ça d'ailleurs, comment finalement tous ses écrits sont nés de ses observations du monde et elle raconte comment elle aime être à la terrasse d'un café et regarder des gens passer pour les observer vivre. C'est ce côté anthropologue qui ressort.
Mais plus particulièrement sur le féminisme, elle travaille beaucoup sur la dichotomie nature-culture. Mm-hmm. Et pour elle, il n'y a pas de nature spécifiquement féminine.
Alors, il n'y en a pas. Elle dit qu'elle existe, bien évidemment. Elle ne la nie pas totalement, mais elle est très peu sur le biologique. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de personne lui reproché dans sa théorie, mais elle est effectivement plus sur la logique de l'acquisition et de l'environnement culturel pour analyser les choses.
La question de la maternité présente dans toute son œuvre, l'instinct maternel pour elle n'existe pas. Pourquoi c'est fondamental pour elle ?
Je pense que c'est sa manière à elle de déconstruire les mythes hein, qui nous collent à la peau et qui nous collent au basque depuis si longtemps et qui justement ont bougé depuis qu'elle a sorti ce livre en 1980. C'était absolument pionnier à l'époque. Hein. Elle a fait couler beaucoup d'encre. En sortant ce livre, elle déculpabilise les femmes qui n'ont pas envie d'enfants, qui n'ont pas de désir d'enfant ou qui ont des enfants mais qui ne les aiment pas immédiatement. Bref, elle a libéré une génération entière de femmes et elle continue de le faire parce que j'ai rencontré des jeunes femmes de 30 ans, 35 ans qui ont lu son livre et qui, en lisant son livre, se sont dit « bah effectivement, j'ai le droit de ne pas avoir de désir d'enfant ou de ne pas être une mère parfaite immédiatement ». Donc ce côté déculpabilisant qui dit qu'on a finalement le droit et le choix, ce qui est toujours dans sa philosophie, dans son approche en tout cas existentielle, hein, on a toujours le choix de faire un certain nombre de choses. C'est la responsabilité humaine qui est en jeu et il est de notre responsabilité de faire des choix de vie, de faire des choix de position, etc.
C'est ce qu'elle aime beaucoup dans le 18e siècle d'ailleurs, hein, puisque c'est l'idée de responsabilité qui est une idée forte du 18e. Vous le dites vous-même dans votre livre, Sophie Sacnin, on a tous notre part de liberté, de choix, de responsabilité individuelle.
Et on aimerait bien qu'elle soit un peu plus exercée, cette responsabilité individuelle aujourd'hui. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est-à-dire que tous les sujets qu'aborde Elisabeth Badinter, ils nous permettent de nous réinterroger sur nos choix, notre responsabilité individuelle, mais aussi collective. Et c'est ce qui est fort chez elle, c'est que loin de l'identité, elle cherche en permanence à recréer du nous, à recréer du collectif et à s'inscrire dans un mouvement collectif. Quelque chose qui nous manque cruellement aujourd'hui.
On fait une pause, on y revient tout de suite.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes ce matin avec Sophie Sacnin qui vient de publier aux éditions de l'Observatoire « Merci Elisabeth Badinter ». Arrêtons-nous un peu, un instant, sur sa passion pour le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières à Elisabeth Badinter. Vous la citez à un moment, elle dit « J'aime le XVIIIe siècle parce que c'est le moment où le « nous » se constitue pour faire entrer dans l'humanité des gens qui n'y étaient pas. Cette notion de citoyenneté abstraite qui permet de nous réunir tous, d'effacer les particularisme, de les laisser à la porte, c'est quelque chose qui me semble fort et réconfortant. Ce serait de là que vient tout son intérêt pour le XVIIIe siècle, à votre avis ?
C'est de là, et c'est aussi là qu'elle va puiser ses réflexions sur notre société. C'est le 18e et quelque part un peu un miroir et la force dans laquelle venait jusqu'à une certaine époque puiser le 20e siècle pour se construire. Et c'est aujourd'hui ça qu'on voit petit à petit s'effilocher. Elle va chercher cette force dans le 18e. Elle dit d'ailleurs à de nombreuses reprises, elle confie que quand elle en a marre de ce qui se passe dans l'actualité, quand elle en a assez de bruit du monde, elle s'isole, elle court dans les bibliothèques, dans les archives, et elle retourne dans le 18e, qui est un endroit pour elle de plaisir, de délectation intellectuelle, on va dire, de véritable, délectation, je crois que c'est le mot.
Oui, parce qu'elle insiste beaucoup sur, au 18e, c'est l'acné, la liberté politique, la liberté de conscience, la liberté de penser, c'est ce qui s'oppose pour elle à la bien-pensance d'aujourd'hui.
C'est ça. L'un des personnages qui incarne le mieux dans son panthéon, elle n'aimerait pas qu'on dise ça, mais dans son panthéon de personnages, c'est Condorcet, qui est pour elle l'incarnation absolue du défenseur des libertés féminines, des libertés des Noirs, des Juifs, des protestants, et donc qui incarne justement cette inclusion de l'ensemble de l'humanité dans un tout qui est un nous.
Et quelle est sa conception de la laïcité alors à Elisabeth Badinter ? Parce que c'est souvent sur ce terrain qu'on est venu la défier.
Alors, je ne me permettrai pas de parler à sa place sur le sujet, parce que ça serait m'emmener sur un terrain qui est...
Mais vous qui avez écouté, relu...
Oui,
vous y voyez une cohérence.
J'y vois une énorme cohérence, d'autant qu'elle est la gardienne du temple, d'une certaine manière, et c'est, pour moi, c'est une lanceuse d'alerte de la première heure, quand on pense à sa réaction en 89 pendant l'affaire de Creil, où elle publie ce manifeste absolument extraordinaire d'actualité encore aujourd'hui.
Avec Régis Debray et Alain Finkielkraut.
Et Alain Finkielkraut, et Elisabeth de Fontenay, et Catherine Kinsler. Il y avait trois femmes quand même. Et j'ai d'ailleurs repris un morceau de ce texte qui est d'une actualité absolument brûlante. C'est-à-dire qu'elle a vu, d'une certaine manière, avant tout le monde, ce qui se jouait en 89. Elle est pionnière, son regard sur le monde est absolument, non seulement juste, mais d'une acuité rare.
Au fond, faire de sa religion son identité, ce que vous laissiez entendre tout à l'heure, c'est quelque chose qu'elle trouve nouveau à ce moment-là en France et dangereux. Hein. C'est ce qu'elle voit tout de suite.
C'est ce qu'elle voit tout de suite et c'est ce qui n'en finit pas de se produire d'année en année. Même si on a légiféré depuis, même si en 2004, la commission Stasi travaille et produit la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Ça, c'est en 2004, 20 ans après. On est encore sur des problématiques qui se répètent. Et je suis, pour ma part, et c'est d'ailleurs ce qui m'a provoqué aussi l'envie d'écrire ce livre, très inquiète de la faible réaction, finalement, de l'ensemble des citoyens sur ces sujets-là, comme si on pouvait s'abstraire finalement de ce qui se passe autour de nous.
Vous la citez dans votre livre à plusieurs reprises, Elisabeth Paninter, quand elle dit par exemple « Lutter contre le racisme est utile et nécessaire, mais on n'a pas à entériner des traditions qui sont contraires à nos valeurs », dit-elle. « La République, la nation ne doit pas se soumettre aux injonctions religieuses ».
Elle est dans l'héritage absolu des Lumières, qui lutte contre l'obscurantisme, et elle est dans la droite ligne du respect de la loi 1905, qui fait de la France un État laïque, qui sépare l'Église et l'État. L'Église, c'est chez soi, et l'État, en l'occurrence l'école fait son travail, et c'est un sanctuaire dont on ne doit jamais déroger au risque de perdre la possibilité de cette émancipation par la pensée, par l'apprentissage, par la connaissance et par le travail.
Et c'est quoi l'universalisme d'Elisabeth Paninter pour vous ?
J'ai le sentiment qu'il est tellement chevillé à mon corps par finalement l'éducation que j'ai pu recevoir ou les valeurs que je porte, qu'il y a cette communauté finalement de... Je vais parler de communauté, mais il y a cette communauté, cette famille de valeurs qui fait que je me sens universaliste comme elle. Et chaque individu que je croise, je ne le croise qu'en tant qu'individu et pas parce qu'il appartient ou parce qu'il appartiendrait à telle ou telle communauté. Sa valeur tient à ce qu'il va dire, à ce qu'il va faire et pas à quelle communauté il appartient et qui il croit être en affichant tel ou tel drapeau.
Merci Sophie Sacknin, merci Elisabeth Paninter. C'est le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire.
Merci.
Et dans un instant, je reçois Gérard Manset pour son nouvel album « L'algue bleue ».
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Gérard Manset, bonjour.
Bonjour.
Vous sortez votre 24e album, L'Algue Bleue, un an et demi après le précédent, Le Crabe aux Pinces d'Or, pour lequel j'avais déjà eu le plaisir de vous recevoir dans cette émission. Qu'est-ce que vous faites entre deux disques ?
Ben je fais le suivant, quoi, en général.
Tout de suite ?
Non, mais c'est pas tout de suite. Ils sont enchaînés. Je l'ai souvent dit, je suis à cheval de l'un sur l'autre. Et puis j'écris beaucoup, des romans, des poèmes, des trucs. Et puis je me balade un peu. Et puis maintenant, je commence à réfléchir, à regarder un peu le passé par la lunette arrière. C'est tout. Mais bon, il n'y a pas de...
Rien de grave.
Non,
la nostalgie,
non.
Je veux dire.
C'est pas de la nostalgie, non, mais... J'en ai eu, juste avant de venir, là, il m'y a encore une chanson qui m'est venue, ben, ça me vient tout de suite. Bon, alors, je ne vais pas dire le titre, mais c'est très touchant, c'est encore lié à ça, et puis ça arrive encore, voilà.
On va écouter tout de suite un extrait de L'Algue Bleue qui donne son titre à l'album.
Dans un appartement sur Copacabana, Andréa me dit au-dessus de son lit, une algue que beaucoup appelaient l'algue bleue était dans un bocal en lapis lazuli. Il fallait s'endormir, ne pas fermer les yeux, et le songe prenait la couleur. Que nous brodions ensemble emplis de créatures.
J'ai commencé en écoutant cet album d'une traite, j'ai eu l'impression d'un album avec beaucoup de cordes et de guitares électriques, plus que dans les précédents. Est-ce que je me trompe d'abord et qu'est-ce que ça cache ?
Alors à 50%, erreur à 50%, parce qu'il y a peut-être moins de cordes que dans les précédents, pas que dans le précédent, mais que dans les précédents où il y avait une surabondance de parties de cordes. Là, il n'y a qu'un titre où il y a des cordes, c'est « Monsieur ». Et par contre, les guitares, là, oui, c'est juste. Il y a peut-être plus de guitares. Pas tellement plus, mais disons que j'ai peut-être gardé plus de couches. Parce que j'ai un jeune guitariste que je trouve remarquable. J'en ai toujours eu des remarquables. Mais là, peut-être que sa fraîcheur de jeu, son toucher m'a incité à garder. Il a construit un peu plus peut-être que d'autres. Enfin, je l'ai laissé construire peut-être un peu plus. Et voilà, donc j'ai gardé pas mal de sous-couches. Alors ça peut donner une impression d'enveloppe musicale de guitare électrique un peu plus anglo-saxonne. Voilà.
Et vous, éternelles lunettes noires, vous les avez là devant moi. Qu'est-ce qu'elles cachent, elles ?
Alors, elles cachent rien. Elles se méfient simplement des caméras qui, même éteintes, maintenant vous suivent partout.
Oui, c'est pour ça toujours, cette phobie des caméras. Vous avez toujours voulu être musicien, Gérard Moncé, ou vous avez fait des disques un peu par hasard ?
Difficile de répondre, c'est à la fois par hasard et je n'ai jamais voulu toujours être musicien, parce que quand j'étais jeune, je me suis fait renvoyer de beaucoup de lycées à cause de la musique. J'ai appris en autodidacte, en quelques mois le solfège, quand j'avais 15 ou 16 ans ou 17 ans. Et puis de là, j'ai embrayé, comme ça, comme à l'époque, on faisait feu de tout bois, c'était des années merveilleuses. On pouvait être tout ce qu'on voulait en 3 minutes, c'était de traverser la rue, d'aller sur les Champs-Élysées. Et puis voilà, on trouvait toujours un producteur, un studio, un photographe, et ça embrayait.
Vous exagérez un peu, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de musique proposée, parce qu'on peut enregistrer ses disques chez soi, on n'a même plus besoin de traverser les Champs-Élysées.
Non mais ça ne résout pas le problème, je veux dire, avant il y avait ces contacts humains. Je me souviens de l'époque Publicis, on montait dans les bureaux, on croisait qui on voulait, on arrivait avec son carton à dessin, parce que moi j'étais graphiste et j'ai fait de l'illustration, on poussait une porte, il y avait un directeur artistique, on s'asseyait, on ouvrait son carton à dessin, c'est bon, voilà, ça n'arrivera plus jamais, il faut 1 an avant d'avoir le rendez-vous avec... Voilà. Donc oui, il y a tout l'internet qu'on veut et toutes les possibilités de poster ces choses en numérique, mais bon, il y a trop de monde, quoi.
Oui, c'est ça, il y a trop de monde. Vos albums nous emmènent toujours en voyage, Gérard Moncé, vous aimez les horizons lointains, cette fois c'est carrément sur la Lune.
Sur la Lune on danse, voyez-vous le soir, et très loin la Terre sa gorge bleutée dans son innocence, entourée de mystère. Sur la lune on danse, voyez-vous le soir, et très loin la terre.
J'ai avancé, c'est un album hors du temps. On vous imagine sur la Lune, effectivement, vivant dans une solitude d'ermite ou d'anachorète. Est-ce que vous êtes si imperméable que ça à l'époque, à l'air du temps, à l'actualité ?
Ah, ça, je l'ai toujours été. Mais non, sur la Lune, mais pas anachorète. Sur la Lune, entourée des créatures comme celles qui figurent sur la jaquette, enfin sur le visuel de l'album. Non, non, non. Si on va sur la Lune, c'est justement pour être entouré des choses les plus gracieuses et les plus électives.
Mais Dieu sait si vous ne faites pas de la chanson réaliste. Tout sort de votre imagination, y compris la jeune femme que vous retrouvez sur la Lune, et dans d'autres chansons de l'album, d'ailleurs.
Non, non, mais c'est vrai, mais... Mais enfin, pour moi, l'imaginaire est très concret. Hein. Il n'y a pas de problème. Je vis dans cet imaginaire réel, tactile.
Tout le temps.
On va dire oui, quasiment tout le temps. C'est une chance, mais j'essaye d'y rester.
La nature également est omniprésente dans vos chansons, mais j'ai l'impression que c'est une nature imaginaire, totalement poétique. Je ne vous vois pas du tout en homme des bois, mais peut-être que je me trompe.
En homme des bois, non, mais j'ai été enfant comme tout le monde dans les provinces de France à me balader tout seul, à chercher des noisetiers, des choses comme ça. Non, bien sûr. Non, non, la nature, elle est heureusement restée telle que je l'ai connue. Alors, même si elle est un peu dégradée par-ci, par-là, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de rivières, enfin, c'est tragique. Mais bon, heureusement que dans l'imaginaire, les choses sont pérennes.
On va écouter un extrait de La Mélancolie.
Savez-vous la tristesse, c'est comme la pluie, il y avait du soleil, mais la joie l'est aussi, comme une fleur qui pousse, une branche brisée qui repousse. au printemps, savez-vous la tristesse, c'est comme la pluie, il y avait du soleil, et puis l'on se redresse au fond du ciel. Savez-vous la tristesse, c'est comme la nuit qui viendrait sur le jour. Écarter la lumière, la courir du bruit, de velours, de velours.
J'ai commencé, vous êtes très littéraire dans vos chansons. Quels sont les auteurs qui vous accompagnent encore aujourd'hui?
Ben, il m'accompagne, mais je m'en suis jamais inspiré. Enfin, c'est instinctif. Mais je veux dire, ils sont en sous-couche, oui. Oh ben, il y a toujours évidemment Balzac, il y a Victor Hugo. Maintenant, il y a plutôt, j'étais très 19e, mais maintenant je suis très attiré par le siècle de Henri II. Là, je l'ai dit récemment. Voilà, toute cette littérature merveilleuse qui était encore plus ou moins vieux français, bien sûr. Mais
et les musiciens?
Ben c'est Beethoven d'abord, mais oui, quelquefois il vient, on voit son ombre se profiler, il demande un crème et puis il repart. J'ai jamais le temps de lui parler parce que je suis dans le studio. Donc le temps que je me lève, il est déjà parti. Mais enfin, il vient quand même me surveiller. Non, c'est Beethoven, bien sûr, et Brahms. Mais enfin, c'est Beethoven et Brahms, voilà.
Et pas le rock.
Ah, mais non, mais c'est un autre chapitre, évidemment, mais c'est un... Bien sûr, enfin, ce qui est anglo-saxon, là, je cite souvent, là, c'est Pink, là, des derniers titres de Pink.
Non. Ah oui, oui. Pink.
Trust Fall, là, qui est absolument magnifique. Bon, mais il y en a beaucoup, hein. Je suis très, pas électro, mais enfin, je suis surtout des années 80, hein. Kim Wilde et compagnie, là.
Ah oui, c'est
keep
drôle.
Keep me hanging on, alors là, oui.
Oui, parce que les années 80, justement, toute la jeune génération, on est très nostalgique, alors qu'on pourrait croire que musicalement, c'était pas si riche que ça.
C'était magnifique, très mélodique et très mélodieux, c'est-à-dire que les artistes chantaient encore, voilà, beaucoup de nuances. Et puis il y avait toute cette époque des synthés, des premiers trucs numériques avec des beats là. Non, c'était extraordinaire, mais on n'entendait rien en France. Hein. On avait toujours droit à Dalida et à Claude François. Hein. Fallait aller loin pour entendre ça.
On va écouter un dernier extrait de cet album. La chanson s'intitule « Comment tu t'appelles ?»
Un d'où tu viens, c'est quoi ton nom? Dis-moi ce soir où tu dors. Et pourquoi tu te tais toujours? De quoi t'as peur en voyant se lever le jour? Qu'est-ce que tu fuis? Dis-moi, qu'est-ce que t'oublies? La solitude, la vraie, la liberté, la seule dont on ne dit rien à personne. Quand y a rien à dire, qui te tient chaud la nuit quand l'amour se tire. Jamais perdu, jamais laissé. Comment tu t'appelles? 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 Comment? Toute la nuit dans les rues mouillées, peut-être un jour ou l'autre. Froide comme une main gelée, douce comme une peau.
J'ai commencé, vous avez toujours refusé de monter sur scène, mais si ça devait arriver un jour dans une autre vie, ce serait où, idéalement?
Ce serait des petites salles, enfin des petites salles de 1000-2000 places, oui. Plutôt à l'étranger. Enfin, j'aurais préféré être bilingue. Si je renaissais, si ça arrivait, je renaîtrais bilingue. Et là, enfin, tout au moins bilingue. Ce serait en anglais. Il n'y a pas de destination. Il n'y a pas de destinée sans ça. On peut pas en français aujourd'hui. D'ailleurs, tout le monde abandonne. Hein.
Merci d'être venu dans cette émission, Gérard Mancé. L'Algue Bleue, votre 24e album, vient juste de sortir hier.
Eh ben oui, merci.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin à 9h pour la suite. Très bonne journée sur Europe 1. Dans un instant, ce sera face à Philippe Devilliers, présenté par Eliott Deval. Bonjour Eliott.
Bonjour cher Frédéric.
Quel est le programme ?
Eh bien écoutez Frédéric, on va parler de cette mobilisation au pied de Sciences Po, j'allais dire de la Sorbonne. Non, de Sciences Po ce vendredi avec Philippe Devilliers qui est un ancien élève étudiant de Sciences Po. On parlera de la GPA, on parlera de ce livre polémique Transmania qui a été censuré dans les rues de Paris. Et on reviendra sur les printemps de l'enfance de Philippe Devilliers. Voilà le programme, cher Frédéric Taddeï.
Merci Eliott, bonne émission.